France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Les Palestiniens de la bande de Gaza attendent toujours désespérément la distribution d'un peu d'aide humanitaire. On tâchera de savoir dans quelles conditions s'organise cet acheminement. Et puis, parallèlement, on verra comment la pression internationale s'accentue désormais sur Israël, accusé de ne laisser rentrer dans le territoire assiégé qu'une portion d'aide insuffisante par rapport aux immenses besoins de la population. À suivre également les derniers ravages du dérèglement climatique. La destruction des forêts vierges tropicales tout d'abord a atteint l'an dernier un niveau record, l'équivalent de 18 terrains de football par minute. On détaillera ce rapport sur l'influence des frères musulmans en France, au cœur ce matin d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Enfin, avec notre invité aujourd'hui, on parlera des ambivalences du modèle social défendu par l'enseigne sportive Décathlon. Ils n'ont le plus souvent pas de nom ni de visage et pourtant, quotidiennement et invariablement, ils reviennent hanter l'actualité. Les morts de Gaza, à chaque jour son nouveau bilan foudroyant délivré par la défense civile. Encore 44 personnes tuées hier, pour la plupart des enfants et des femmes, et 19 autres supplémentaires ce matin dans des frappes israéliennes contre le territoire palestinien. Alors face à cette nouvelle campagne de représailles militaires totalement déshumanisée, sans aucun égard pour les pertes au sein de la population civile, ni même parmi les otages, l'Union européenne a annoncé lancer un réexamen de son accord d'association qui depuis 1995 régit la relation entre les deux partenaires commerciaux, mais pas seulement. Emeline Vin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Hier, le gouvernement britannique, Emeline, a dit suspendre ses négociations avec Jérusalem sur un accord de libre-échange.
Oui, et les mots employés par le chef de la diplomatie britannique marquent une rupture claire dans les relations avec Israël. David Lamy qualifie de moralement injustifiable, totalement disproportionnée et contre-productive l'opération militaire appelée « Chariot de Gédéon ». Quant aux déclarations du ministre israélien des Finances qui a appelé au nettoyage de Gaza, Londres dénonce un extrémisme monstrueux et répugnant. Alors même si le gouvernement continue de parler de ses amis israéliens, il dénonce également le blocage de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, contraire, dit-il, aux valeurs britanniques. Alors, en plus de suspendre les négociations commerciales, David Lamy convoque l'ambassadeur de l'État hébreu au Royaume-Uni et impose des sanctions à une poignée de colons violents, l'une d'entre elles étant apparue dans une série de documentaires populaires ici. Une partie des députés des deux côtés de la Chambre appelle le ministre des Affaires étrangères à qualifier de génocide la situation à Gaza et dénonce des mesures trop symboliques de la part du gouvernement qui laisse entendre ce mercredi qu'il pourrait bientôt sanctionner des ministres israéliens.
Merci Emeline Vin en direct de Londres. Alors dans le concert de protestation qui depuis le début de la semaine pointe la sensibilité politique et morale du gouvernement de Benjamin Netanyahou, une attaque en particulier est venue secouer hier le monde politique israélien. Elle est signée du chef de file de l'opposition de gauche et ancien chef d'état-major adjoint aujourd'hui à la retraite, Yair Golan, pour qui, je cite, « un pays sain n'a pas pour hobby de tuer des bébés ». Israël est en train de devenir un état paria, a-t-il encore déclaré, avant d'être accusé d'antisémitisme. Lui qui, le 7 octobre 2023, avait été salué en héros pour avoir saisi son fusil de réserviste et secouru des rescapés du massacre perpétré ce jour-là par le Hamas. En attendant, mis sous pression à l'étranger, donc pour son blocus total de l'enclave palestinienne, et parce que des images de famine de masse pourraient, selon ses propres termes, mettre à mal la légitimité de son effort de guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donc autorisé depuis dimanche une reprise limitée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. À peine une centaine de camions ont pu pénétrer hier dans le territoire assiégé. De leur côté, les Émirats Arabes Unis ont conclu ce matin un accord avec l'État hébreu pour permettre la livraison d'aide d'urgence, sans d'ailleurs que l'on ne sache véritablement comment et par qui elle sera acheminée sur place. Après que Donald Trump avait créé la surprise la semaine dernière en annonçant la levée des sanctions américaines contre la Syrie, l'Union européenne lui a emboîté le pas. En revanche, le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, a lancé hier un sévère avertissement aux nouvelles autorités de Damas. Selon lui, la Syrie serait aujourd'hui au bord de l'éclatement, comprenant d'un effondrement potentiel et d'une nouvelle guerre civile à grande échelle. Seule certitude, le nouveau gouvernement peine en effet encore à s'imposer sur l'ensemble du territoire, notamment en raison de la présence de groupes armés aux allégeances diverses.
Un déplacement de travail.
C'est ainsi qu'a été qualifié hier dans un communiqué du Kremlin la visite visite surprise de Vladimir Poutine dans la région de Koursk. Sur la télévision publique, le président russe est apparu décontracté et souriant. De là à y voir l'image d'un facilitateur de paix, il y a un pas que Kiev n'est pas prêt à franchir. Les autorités le répètent à qui veut bien l'entendre. Il ne faut pas se fier aux négociations en cours. Selon les services de renseignement ukrainiens, le chef du Kremlin planifierait même un assaut généralisé sur toute la ligne de front dans les semaines à venir. En attendant, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont adopté hier de nouvelles sanctions contre la Russie, sans le concours des États-Unis, dont le président semble avoir désormais renoncé à obtenir un cessez-le-feu immédiat. Donald Trump, en revanche, présentait hier un projet pharaonique de bouclier antimissile destiné à protéger le territoire américain depuis l'espace, coût estimé de ce dôme d'or 175 milliards de dollars. Ce projet de défense dans la lignée de la guerre des étoiles défendue par l'un de ses prédécesseurs et idole républicain Ronald Reagan serait opérationnel avant la fin de son mandat. Reste à savoir si au-delà de ce calendrier ambitieux, un tel projet qui pourrait à terme coûter beaucoup plus cher bénéficiera des financements suffisants.
La destruction des forêts vierges tropicales a atteint l'an dernier un niveau record.
Oui, près de 7 millions d'hectares de forêts primaires au total, soit le pire recul jamais enregistré ces 20 dernières années. Véronique Rebérot, bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois, les incendies sont les premiers responsables devant donc l'agriculture. Ils expliquent près de la moitié de ces destructions.
Oui, des méga-feux quasiment inarrêtables dopés par les sécheresses. Ces incendies de forêts primaires ont été particulièrement nombreux en Amérique du Sud en 2024. 140 000 incendies ont été recensés rien que dans l'Amazonie brésilienne, provoqués à la fois donc par les activités humaines et donc par le dérèglement climatique lui-même d'origine anthropique. Les sécheresses extrêmes dans ce secteur liées au phénomène El Niño ont créé des conditions propices au feu et à leur propagation. L'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Outre le Brésil, la perte de forêts primaires a augmenté de 200% en Bolivie. Les incendies ont également été très nombreux au Mexique, au Nicaragua, au Guatemala et au Pérou. Même saison des feux catastrophiques en Russie et au Canada et surtout en Afrique avec des hausses là aussi records au Congo-Brazzaville et en RDC, République démocratique du Congo. En tout, les feux ont été responsables de la moitié des pertes des forêts tropicales, la moitié donc des 6,7 millions d'hectares de forêts primaires qui sont partis donc en fumée. C'est colossal aussi en émissions de CO2 dans l'atmosphère, avec plus de 4 milliards de tonnes de CO2 émises. C'est plus de 4 fois les émissions du transport aérien. Autrefois, souvenez-vous, on parlait de ces forêts primaires tropicales comme des puits de carbone, jouant un rôle capital considérable pour la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone, encore raté. Décidément, l'humain apporte dans les forêts aussi et surtout peut-être la preuve de l'énergie mortifère qu'il met à scier la branche sur laquelle il est assis.
Merci Véronique Rebérot.
Midi passé de 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Depuis un peu moins d'une heure maintenant, un conseil de défense et de sécurité nationale se tient à l'Élysée. Emmanuel Macron a réuni autour de lui le chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres pour mieux se pencher sur un rapport commandé à deux hauts fonctionnaires sur les frères musulmans et d'où ressortirait non seulement le caractère anti-républicain et subversif de cette organisation, mais pas seulement, puisque le dit document pointe une menace pour la cohésion nationale avec, je cite, le développement d'un islamisme par le bas. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors une fois expliqué comment les frères musulmans se sont implantés en France et continueraient de le faire à partir de ce constat donc d'une forme d'entrisme dans la société française, vient surtout en réalité se greffer à présent un discours politique volontiers droitier, au risque parfois de rapprocher rapidement islam et radicalité.
Oui, il faut distinguer deux choses. D'abord, le rapport en lui-même, qui dresse un état des lieux du frérisme en France. Un peu plus de 200 lieux de culte musulmans sur 2800 sont rattachés à la mouvance, ça fait 7%. Derrière ces lieux de culte, il y a des écoles, des associations, et surtout, dit le rapport, une volonté d'ériger la loi coranique au-dessus des lois de la République, ce qui en soi menace la cohésion nationale. La qualité du travail réalisé des rapporteurs est saluée ce matin par plusieurs responsables politiques, et notamment par la sénatrice centriste de l'Orne, Nathalie Goulet, sur France Info.
Je voulais quand même vous dire que la qualité des auteurs doit quand même faire réfléchir. Vous avez François Gouyette, qui est un très fin connaisseur du monde arabe, qui est un parfait arabisant, et puis le préfet Courtade. Donc si ces auteurs ont écrit ce qu'ils ont écrit, je suis sûre que c'est au trébuchet et qu'il faut quand même y prendre attention.
au-delà du constat, vous l'avez dit, un discours politique s'installe. Gabriel Attal, par exemple, annonce vouloir interdire le port du voile pour les jeunes filles de moins de 15 ans. L'ancien Premier ministre voit là sans doute une manière de renouveler la proposition d'interdiction de l'abaya dans les écoles qui lui avait valu notoriété et popularité lors de son bref passage au ministère de l'Éducation. Ce matin, sur France Inter, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, s'est également emparé de la question.
Si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous interdirons les frères musulmans. Les frères musulmans, aux Émirats Arabes Unis par exemple, ou en Jordanie, et pour vous citer des pays un peu plus proches des nôtres, je pourrais citer l'Autriche, sont considérés comme une organisation terroriste. Donc je souhaite que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif.
Par ailleurs, depuis quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, met aussi en avant ce rapport pour justifier son discours très ferme et très volontariste sur les questions migratoires, quand d'autres responsables politiques, à gauche notamment, pointent les risques d'amalgame et de stigmatisation de l'ensemble de la communauté musulmane. La difficulté sur un sujet aussi sensible politiquement et dans l'opinion publique est d'essayer de faire la part des choses entre ce qui relève du discours, du fantasme et de la réalité. À l'issue de ce Conseil de défense qui se tient en ce moment, plusieurs mesures doivent être annoncées et une version édulcorée du rapport doit être publiée.
Merci Stéphane Robert. Une semaine après l'audition de François Bayrou, c'est au tour de l'ex-première ministre et actuelle locataire de la rue de Grenelle, Elisabeth Borne, d'être entendue cet après-midi par la commission parlementaire sur les violences scolaires née de l'affaire Bétarame. Auparavant, les députés entendront les inspecteurs généraux chargés de l'enquête administrative sur l'établissement privé parisien Stanislas, enquête sur des accusations de dérives homophobes et sexistes et dont les conclusions sont aujourd'hui controversées. Puis l'ancien directeur de Saint-Jean-de-Passy, mais aussi du prestigieux établissement parisien Stanislas, justement, Daniel Chapelier, 75 ans, un homme austère mais une figure respectée dans le monde de l'enseignement catholique privé, comparé à lui à partir d'aujourd'hui pour agression sexuelle sur un collégien devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Les faits remontent à 2021. Daniel Chapelier conteste et se dit victime d'une machination.
En revanche, la menace d'un procès s'éloigne considérablement pour trois anciens membres du gouvernement visés par une enquête sur leur gestion du Covid-19.
Oui, le ministère public vient de requérir un non-lieu à leur égard dans cette information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui. Sont visés l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ainsi que ses deux ministres de la Santé Agnès Buzyn et Olivier Véran, tous placés sous le statut de témoins assistés. Et d'ailleurs, cette absence de mise en examen donc laissait déjà entrevoir en réalité un possible non-lieu.
L'enseigne est connue dans toute la France et jouit d'une image plutôt positive.
Oui, Decathlon à fond la forme, la marque aux 100 000 employés à travers le monde et aux 15 milliards de chiffres d'affaires prônent un certain nombre de valeurs et ne manque pas de communiquer dessus auprès non seulement des consommateurs mais aussi de ses propres employés. Or voilà qu'après 4 ans de recherche, un livre intitulé Decathlon, les tactiques de la vertu, paru la semaine dernière en presse de Sciences Po, vient confronter les grands principes autour de l'inclusion, les fondations sociales, l'environnement à la réalité des pratiques. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, l'un de ses co-auteurs, Karel Lyon, chargé de recherche au CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous faites partie donc des 8 chercheurs en sociologie et sciences politiques qui ont mené cette enquête. Et à mes côtés, donc, pour vous interroger, Wafia Kenich. Bonjour Wafia.
Bonjour. Alors, Karel Lyon, vous avez donc participé à l'écriture de ce livre. Et donc, Marie le disait tout à l'heure, on a une image positive de cette entreprise qui prône des valeurs universelles, la défense de l'intérêt général. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Decathlon pour votre enquête ?
Précisément pour cette raison, parce que Decathlon fait, comme vous l'avez dit, partie des entreprises préférées des Français, qui a été classée à plusieurs reprises dans le palmarès des Great Place to Work. Et y compris les propres salariés de l'entreprise revendiquent ces valeurs et se disent attachés à celle-ci. Donc, pour nous, l'objectif, c'était justement de se poser la question de qu'est-ce que ça peut signifier travailler dans une entreprise qui se proclame citoyenne et qui met comme objectif, parfois même prioritaire dans le discours de ses dirigeants, primant sur l'objectif du profit, celui de contribuer au bien social.
Et alors, c'est quoi un bon décathlonien, puisque vous utilisez cette expression à plusieurs reprises dans le livre?
Oui, ce qu'on essaye de montrer, c'est que travailler à Decathlon, c'est pas simplement signer un contrat de travail, c'est aussi en quelque sorte s'engager sous la forme, enfin, en tout cas, c'est présenté comme ça, sous la forme d'un contrat moral, s'engager dans son travail comme un bon salarié, mais aussi, c'est fortement valorisé le fait de s'engager comme un bon citoyen. Par exemple, l'entreprise promeut des projets associatifs qui peuvent être soutenus par la fondation Decathlon, qui est une fondation d'entreprise, invite les salariés à faire des propositions pour nouer des partenariats locaux avec des associations, pour renforcer l'intégration des magasins dans leur communauté locale, travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc ça fait partie de tout un tas d'engagements qui sont donnés, qui sont demandés, pardon, au-delà de l'activité de travail, des prescriptions qui sont liées à l'emploi qui est occupé de vendeurs, d'hôtes de caisse, de magasiniers dans les entrepôts, etc.
Et si vous n'adhérez pas à cette dynamique de projet, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, il peut y avoir plusieurs logiques. Hein. Nous, on a rencontré tout un tas de salariés, généralement qui sont dans les positions les plus basses de l'entreprise, en caisse, comme vendeurs ou magasiniers, qui essayent de ne faire que leur travail, hein, de pas forcément répondre à ces injonctions à donner plus que ce qui est attendu de la fiche de poste. Et ce qui est certain, c'est que pour ces salariés, ça peut signifier en fait se maintenir au bas de l'échelle, tout simplement, parce que en fait, ça paye de se montrer volontaire. Donc, quand on veut faire carrière dans l'entreprise, il faut faire preuve de son implication. Après, il y a d'autres conséquences qui peuvent advenir quand des salariés, par exemple, vont remettre en question ce discours de la vertu, éventuellement pointer des contradictions, pointer ce qu'ils perçoivent être des hypocrisies, parfois s'engager dans des organisations syndicales qui ne sont pas forcément celles suggérées par les cadres. Et là, ça peut aboutir à des pratiques de répression beaucoup plus ouvertes, hein, de salariés qui sont poussés à la démission ou d'ostracisation des
syndicats. Vous donnez des exemples précis, hein, d'une vendeuse de plus de 50 ans qui dit « moi je veux juste faire mon travail », ce qui est la base du contrat, et qui n'est plus augmentée ou qui n'est pas augmentée. Vous donnez aussi l'exemple d'une salariée qui crée une liste CGT, et qu'est-ce qui lui arrive ?
Oh ben elle voit face à elle, enfin c'est un salarié en l'occurrence, face à lui une autre liste montée sur l'invitation un peu pressante de l'encadrement, un certain nombre de missions qui lui sont enlevées, et un salarié qui se retrouve complètement ostracisé. Oui, ça c'est sûr que ces effets là nous on les a observés sur le terrain à travers les pratiques d'observation participante qu'on a menées à travers les entretiens qu'on a réalisés. Et puis c'était des pratiques qui étaient déjà aussi pointées par les organisations syndicales de l'entreprise depuis plusieurs années.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le sort réservé aux CDD et aux sous-traitants et aux salariés de la sous-traitance.
Oui, alors ça c'est intéressant aussi parce que derrière ce discours de l'entreprise citoyenne, hein, il y a l'idée que tous les salariés font partie d'une grande communauté qui contribue de manière harmonieuse au fonctionnement de l'entreprise, etc. Or, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il existe tout un tas de frontières sociales et symboliques qui divisent, qui fragmentent la communauté d'entreprise. On l'a vu en France quand on a fait de l'observation participante dans un magasin. En fait, les CDD, en tout cas une certaine fraction des CDD qui sont là pour quelques semaines seulement et qui sont là pour répondre aux pressions des saisons où il va y avoir besoin de beaucoup plus de personnel de vente, etc., peuvent être considérés comme de la pure force de travail et pas du tout considérés, par exemple, pas invités aux événements de sociabilité, aux soirées que les collègues organisent entre eux, etc. Et on parle même pas effectivement de la sous-traitance où y compris il peut y avoir un modèle d'entreprise citoyenne qui va promouvoir l'idée que, y compris dans les pays où sont installés des sites de production, dans les pays du Sud, au Maghreb ou en Asie du Sud-Est, etc., il y a toute une politique en faveur de la protection sociale, mais il y a tout un tas de salariés en fait qui ne peuvent même pas être concernés par ces politiques.
Merci beaucoup, Karl. Merci.
Et je rappelle donc le titre de l'ouvrage dont vous êtes le co-auteur, Décathlon ou les tactiques de la vertu, paru la semaine dernière aux presses de Sciences Po. Merci à vous et merci également à Wafia Kenich.
Merci Thomas.
Au lendemain de violents orages qui ont fait au moins 3 morts et de très importants dégâts, la situation commence à revenir à la normale au Lavandou et dans ses environs.
Oui, avec des rafales de vent à 100 km à l'heure et des cumuls de pluie de 186 mm, 3 à 4 fois supérieurs à la normale mensuelle. Les éléments se sont déchaînés au point de transformer un ruisseau en véritable torrent, impossible à contenir pour l'homme. Le maire du Lavandou, Gilbert Nadi, appréhende d'ores et déjà des dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros et comme souvent en pareilles circonstances, c'est bien, il pointe un responsable, le dérèglement climatique. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Info.
Ce qui s'est passé hier dans notre commune, c'est une crue probablement 5 centennale. Après, à un niveau tel, on ne peut absolument pas répondre. Quoi. Mmh. C'est absolument inimaginable de voir que dans une zone comme ça, qui est très peu habitée, très peu bâtie, où il y a certainement 99% de forêts, c'est pas l'urbanisation, l'imperméabilisation, c'est simplement que les éléments se dérèglent, se déchaînent. Quand un fleuve comme ça se crée à un endroit où il y a un ruisseau minuscule et que l'eau monte d'un coup de 4 à 5 mètres, Ouais, c'est cataclysmique, quoi. C'est très impressionnant.
Le maire du Lavandou, donc Gilles Bernadi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur un bon tiers sud du pays, couvert et parfois même pluvieux au nord. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.